Faire un exposé sur des travaux que nous avions faits dans le Centre de recherche et de restauration du Musée de France, qui joint les connaissances humaines, hein, puisqu'il s'agit des objets qui étaient ou qui préparaient pour le musée du Quai Branly, c'est-à-dire des objets africains, des objets océaniens, des objets de toutes ces régions-là. Et ces objets-là, on ne les connaissait pas bien. On savait bien, on avait des petites fiches, on avait bien des renseignements sur la manière de les recueillir, mais on ne savait pas bien, en particulier, comment ces objets fonctionnaient et comment ils s'intégraient dans ces sociétés. Alors ça, c'est le vieux réflexe de l'archéologie. Vous savez, vous trouvez, par exemple, dans une grotte, vous trouvez, par exemple, une sépulture, hein, vous trouvez des silex taillés, vous trouvez des bouts de bois de renne qui sont aussi gravés, des choses comme ça. Et puis, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Il n'y a plus personne qui vient vous en parler. Il y a une sorte de grand silence dans cette grotte autour de ces objets. Et pourtant, on a l'impression d'avoir quelque chose de très important. On a l'impression de trouver des choses qu'on avait oubliées pendant des millénaires, et puis brusquement on les a comme ça devant les yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a fait des progrès quand on a su réunir à la fois les connaissances des sciences humaines, c'est-à-dire comment on vivait, autour de quel foyer on se réunissait, quelle était la famille à l'époque, etc. Et puis les connaissances scientifiques. On va chercher, par exemple, la géologie du silex. On va se dire, tiens, quel est ce type de roche? D'où ça vient? Ah, pour avoir cette roche, ils avaient dû parcourir 50 km, etc. Les petites retouches sur le côté, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ces retouches? Et puis au microscope, ou alors avec des analyses plus précises, chimiques en particulier, on se dit, ah bien ça, ils ont travaillé le bois. Ils ont travaillé, au contraire, la viande pour dépecer des animaux chassés, etc. Donc vous voyez comment, dans certains domaines, en particulier en ce qui concerne l'étude des hommes, on est bien obligé de rassembler à la fois les compétences de sciences humaines et les compétences des sciences exactes, de la chimie, de la physique, etc. Alors là, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples. Donc, qui posaient les mêmes problèmes. Vous savez, on a ramené depuis à peu près un siècle, parfois un peu plus, deux siècles, des sculptures, des vestiges de tous ces pays que les Européens parcouraient, en particulier l'Océanie, l'Afrique, et puis, si on a le temps, on verra un peu l'Amérique. Eh bien, ces objets, le premier exemple, c'est celle qu'on appelle l'ogresse. Et vous voyez qu'elle n'a pas l'air commode, cette ogresse. Et quand on va continuer à voir ce qu'elle représente, on va s'apercevoir qu'elle est vraiment un personnage un peu épouvantable. Mais pourquoi? Ce pourquoi, on va, avec ces analyses, réussir à démontrer un certain nombre de choses et on va finir par l'identifier. Alors, l'anecdote, c'est que cette sculpture appartenait au peintre Matisse. On est en 1951. Matisse vit à Nice. Et son ami, Picasso, vient le voir. Il se voyait régulièrement. Et Matisse se tourne vers Picasso et dit, mon cher ami, je te donne mon ogresse. Picasso pique une rogne. Il dit, voilà, il me prend pour un sauvage. Et voilà, une non-compréhension et en même temps, une sorte de réaction tout à fait occidentale sur ce type de sculpture. Voyez Picasso, ici, qui regarde cette même sculpture. Voyez comment la sculpture est assez grande. Alors, elle est épouvantable parce qu'elle a de gros yeux, voyez. Elle a une tête énorme, elle est aussi bizarrement, elle est assise, elle est nue, Et quand on regarde de près, on va s'apercevoir qu'il y a encore bien des détails qui sont assez horribles. Donc Picasso commence à s'habituer quand même. Il a claqué la porte de chez Matisse. Et il a attendu que Matisse soit décédé pour revenir voir le fils de Matisse. Et il lui dit, ton père m'avait promis cette sculpture. Je viens la chercher. Donc Picasso avait réfléchi. Et il s'est dit, mais ce qui m'a impressionné, c'est quelque chose qui doit être vrai. C'est quelque chose que je voudrais approfondir. Et c'est pour cela qu'il est venu rechercher cette sculpture. Et aujourd'hui, la sculpture, elle est au musée Picasso, dans la collection des objets de Picasso. Alors, Picasso réagissait là aussi comme un Européen. Il réagissait émotionnellement. Mais il avait ressenti qu'il y avait des éléments qui étaient un peu troublants et qui l'émouvaient. Par exemple, voyez la chevelure. La chevelure, ce sont des vrais cheveux. Ce sont des cheveux d'homme. Ensuite, vous voyez qu'au niveau du nez, il y a un os qui est peint. Un os long, comme on dit. Cet os long, c'est un os humain. Il est peint, c'est un fémur. Mais c'est un fémur humain. Alors, encore plus curieux, des cheveux humains, un os humain, là. Les dents, on les voit mal, mais on voit la bouche est toute ouverte. Et il y a, apparaissent toute une série de dents qui ont l'air assez carnivores. En réalité, ce ne sont pas là des dents humaines, ce sont des dents qui sont plus grosses que les dents humaines. Mais pour montrer l'effet de ce rictus, l'effet de ce rire. Et ce sont des dents de cochon. Alors, dents de cochon, pour celui qui connaît l'Océanie, le cochon, c'est vraiment l'animal sacré. Vous regardez les bras, voyez les bras, vous voyez des bracelets. Les bracelets, ce sont justement des canines de cochon. Et ces canines, elles forment un tour complet. Alors vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est ce phénomène? Vous connaissez, vous, des dents, imaginez vos canines, qui poussent et qui forment un tour complet? Eh bien, ce détail nous met sur la piste de l'origine de la sculpture. Et quand on dit l'origine, ça veut dire qu'on va retrouver le rituel de la sculpture. On va retrouver, au fond, pourquoi on l'avait faite et pourquoi cette sculpture est si bizarre pour ceux qui ne connaissent pas cette civilisation. On est donc en Océanie. On est donc au Vanuatu, exactement. Et les cochons sont élevés parce qu'ils sont l'animal sacré. Et cet animal, bon, c'est l'animal commun, mais on les nourrit et on leur casse la canine supérieure. Et ces cochons, donc, ont la canine inférieure qui pousse et qui ne suce pas. Donc, dans le meilleur des cas, la canine forme un tour. Alors, bien sûr, quand elle rentre à nouveau dans la peau, le cochon doit souffrir énormément. Mais pour les gens du Vanuatu, c'était la preuve que le cochon était choisi par les dieux. Et c'était la preuve que le cochon, qui souffre à un certain moment, ensuite, ça soulage parce que la dent passe à travers et ça forme un bracelet. Et ces bracelets que vous voyez là, eh bien, viennent de ces cochons sacrés qui sont élevés pour, honorer les dieux. Alors, les dieux, ce personnage, avec tous ses décors, avec tous ses souvenirs, à la fois d'os humains, de cochons sacrés, etc. Mais est-ce que par hasard, c'est pas le dieu de cette société du Vanuatu? Effectivement. On a pu retrouver son nom, elle s'appelle Novim Bumbao. Donc on connaît le nom. Et cette Novim Bumbao avait une importance extrême parce que c'était la déesse qui protégeait les morts humains, mais aussi les morts de toute la société, qu'ils soient animaux, parce que tout ce qui est vivant est compris dans la pensée de ces gens du Vanuatu. Et non seulement elle était la déesse donc des morts, mais les morts vont dans un au-delà. Et cet au-delà est dirigé par les dieux. Donc, la Novim Bumbao, elle était aussi, au fond, l'intermédiaire entre ces dieux et puis les humains. Et comme elle est au Vanuatu et la richesse rurale de cette région, eh bien, ce sont les ignames. Et la déesse est en même temps aussi la déesse des ignames. Alors, je vous ai parlé des cheveux crépus. Il y a une petite plume blanche qui se trouve sur l'os justement humain et qui évoque aussi le sacrifice des poulets qui se fait lors des grandes fêtes religieuses. On peut parler de la déesse, de l'idole, du cochon, de l'igname, de l'os humain. Et on a pu étudier les différentes couleurs, par exemple. Alors, on a étudié le blanc. Le blanc, c'est un carbonate de calcium. Et dans ce carbonate de calcium, il y a quelques grains d'ocre. Bon, ça, c'est la couleur traditionnelle qui était utilisée. Le noir est déjà plus intéressant. C'est du noir organique de lampe ou de noyau. Et un noyau de fruits. Et ce noir, donc, c'est une chimie, c'est une fabrication de matériaux que l'on prend pour obtenir cette couleur dont on a beaucoup besoin, non seulement pour la sculpture, mais aussi pour les couleurs corporelles. Dans toutes les cérémonies, les gens du Vanuatu se présentent avec des couleurs sur le visage sur le corps. Et alors, il y a deux couleurs qui nous ont intéressés au laboratoire. Le rouge et le bleu. Pourquoi le rouge? Le rouge, c'est une laque organique avec une charge de sulfate de barium naturel. Alors ça, ce rouge-là est une fabrication qui existait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc ça nous donne une indication du moment où on a utilisé cette sculpture pour des cérémonies. Et on a de plus examiné le bleu. Le bleu est un bleu de méthylène, et ce bleu de méthylène est également utilisé à cette époque-là. Donc vous voyez là les définitions d'éléments, soit les dents, soit les cheveux, etc., ou alors de couleurs, ou alors bien sûr la fabrication avec des tapas, c'est des textiles de plantes et d'écorces que vous voyez là. Eh bien, cette sculpture a donc été faite avec des matériaux qui justifient l'origine que l'on peut définir, c'est-à-dire le Vanuatu, et qui nous donne la datation de cette des cérémonies dans lesquelles elle jouait un rôle important. Voilà un premier exemple. Alors la radiographie, vous voyez bien les bracelets là que l'on voit assez bien. Vous voyez aussi l'os humain sous le nez. Le deuxième exemple que je vais vous prendre est plutôt africain. Alors il s'agit d'une sculpture en bois qu'on a trouvée probablement dans le pays d'Ogon, sur le plateau de Bandiagara. Cette sculpture, vous voyez, vous voyez la tête ici, elle a 2 mètres de hauteur. C'est-à-dire, au point de vue d'une sculpture en bois, c'est une hauteur très importante. Surtout qu'on est dans un pays où des bois, surtout des bois rectilignes pour sculpter ce genre de sculpture, c'est pas évident d'avoir une portée de bois aussi grande. Elle a été trouvée donc dans une région qui est occupée par les Dogons. Le bois permet les datations. C'est une matière organique et le bois peut donc être daté par le carbone 14. Et ces datations ont été faites en Suisse. Il y en a plusieurs échantillons qui ont été prélevés. Et ces échantillons nous donnent une ancienneté de 1000 ans. 1000 ans, c'est considérable, déjà pour un bois. Mais bon, 1000 ans, on a fait plusieurs essais, on retrouve le même résultat. Donc 1000 ans, eh bien, c'est une date très ancienne. Mais très ancienne qui nous intrigue. Parce que sur le plateau de Bandiagara, il y a des Dogons. Mais ces Dogons, on a pensé qu'ils étaient arrivés seulement vers le XVIe siècle. Peut-être 15e, 16e siècle. 1000 ans, eh bien, ça nous fait remonter 5 siècles avant ce qu'on pensait de l'arrivée des Dogons. Alors, le style, là on a la tête, c'est un personnage masculin. Et vous allez voir que le reste du corps est féminin. Mais ça, on va étudier pourquoi. Ici, vous avez donc la barbe. Donc on est bien un personnage masculin. On a des scarifications que vous avez juste à côté de l'oreille et de l'œil, là, entre l'œil et l'oreille. Et puis vous avez sur la tête un chignon. Et ce chignon, il est typique des chefs Dogons. Donc ce personnage, d'après sa morphologie, d'après son style, répond à la définition du style Dogon. De la sculpture. Mais les Dogons sont arrivés bien plus tard que les 1000 ans qui datent la sculpture. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la sculpture a été faite au moment où on a taillé l'arbre, au moment où on l'a abattu? Est-ce qu'on n'a pas laissé cet arbre pendant 5 siècles? Est-ce qu'on n'a pas repris cet arbre pour le tailler, par exemple? Vous voyez les questions qu'on se pose? Eh bien, ce n'est pas possible. Parce que un bois comme celui-là, si on le laisse à l'abandon pendant 5 siècles, eh bien il se fend, etc. Il n'est pas entretenu et il se détériore très vite. Or, ce bois-ci est complètement intact, impeccable, et donc il a forcément été taillé sous forme de sculpture peu de temps après la taille de l'arbre. Donc il faut imaginer que la sculpture est bien de 1000 ans. On a fait une vérification en étudiant les patines. Vous voyez que sur sur les surfaces, il y a une sorte de produit blanchâtre qui apparaît, on verra encore mieux après. Et cet enduit, eh bien, c'est le résultat d'aspersion de produits qui vivifient la sculpture au moment des... Au moment des cérémonies rituelles. Et ce produit, c'est souvent de la farine, une farine de mil, qui est arrosée avec un peu d'eau, bien sûr, pour faire une sorte de pâte, mais aussi le sang des poulets qui sont sacrifiés en l'honneur du dieu, ou en l'honneur, bien sûr, de la personne défunte quand il s'agit d'une cérémonie funéraire. Donc, c'est de la matière organique. Cette matière organique peut être également datée. Et cette matière organique nous donne également environ 1000 ans avant notre temps actuel. Donc, l'enquête nous dit, ben voilà, la sculpture est vraiment authentique. Elle a été faite bien avant que les Dogons arrivent, mais la distorsion... L'explication qu'on n'arrive pas à donner, pourquoi cette sculpture se trouvait à l'endroit où les Dogons devaient arriver 5 siècles plus tard. Alors, on reprend donc tout un dossier et on essaie de réexpliquer comment il se fait que ces populations que l'on disait sans histoire, hein, ces populations qu'on dit, voilà, ce sont des populations de tradition orale, et ces populations ne peuvent pas avoir d'histoire parce qu'ils n'avaient rien écrit. Eh bien là, on a des éléments, on a des points de repère tout à fait importants pour reconstituer, au fond, l'histoire de ces populations. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que l'histoire, dans ce cas-là, eh bien, on peut la généraliser davantage. On peut arriver à retrouver le mouvement des populations. On peut arriver à retrouver, eh bien, ce qui a pu arriver, enfin, de catastrophe dans une société, et comment, au contraire, eh bien, ces gens se sont installés. Donc, à l'heure actuelle, on repense complètement les hypothèses de cette explication. Vous voyez la tête vue de face, avec la radiographie là derrière. Et puis, sur le ventre de la femme, il y a les deux enfants. Vous voyez à gauche le garçon, qui se tient avec un genou en terre. Et puis, les deux genoux pour la fille qui se trouve à droite. Avec le nombril au milieu, le nombril de la femme, c'est-à-dire l'autre partie, pas de la sculpture, par rapport à la tête masculine qu'on avait vue au départ. Voilà comment, en expliquant ces vestiges, en essayant d'utiliser à la fois toutes les méthodes qui sont à notre disposition, eh bien, on peut arriver à reconstituer des parties importantes de l'histoire. Alors bien sûr, ça c'est un exemple, mais on continue. On a des dossiers comme ça qui nous permettent de reconstituer des grands moments d'histoire, alors que on avait peu de renseignements sur ces grands mouvements du peuple. Dans cette région des Dogons, on a trouvé aussi, à la base d'une falaise peinte, que je vais vous montrer après, on a trouvé des petites dallettes, comme celle-là, où vous voyez des peintures. Et ces peintures, au départ, on ne savait pas bien ce qu'elles étaient. Et quand on a fait des enquêtes sur le terrain en particulier, et là j'ai pu y aller l'année dernière, il y a juste un an, et on peut expliquer donc un certain nombre de choses tout à fait importantes. Ces plaquettes, vous voyez, ces petites plaquettes qui font à peu près une vingtaine de centimètres de hauteur, sont des plaquettes qui sont peintes par des jeunes de votre âge qui sont initiés. Alors, une année les garçons, une autre année les filles. Initiées, ça veut dire que ces adolescents vont passer au niveau adulte. On va leur apprendre. Ce sont il y a trois grands personnages à la tête du village, et ces personnages c'est eux qui sont qui doivent enseigner les mystères, au fond, de la religion, qui doivent enseigner les mystères de la vie, qui doivent enseigner, disons, l'ensemble des connaissances initiatiques. Alors, d'abord, il faut savoir ce que sont ces plaquettes et comment ces jeunes, puisqu'on voit qu'elles sont en relation avec ces initiés, comment ces jeunes les faisaient et les utilisaient. Alors, on a fait là aussi des analyses de chacun de ces pigments. Alors, vous voyez, il y a trois pigments. Il y a un pigment rouge. Alors, les jeunes devaient retrouver par eux-mêmes l'ensemble des pigments, des techniques, etc. C'est-à-dire, le fait d'être initiés les obligeait à se débrouiller par eux-mêmes pour fabriquer ces peintures. Et le thème de ces peintures, c'est, vous le voyez là, un masque, des masques. Et le masque, c'est celui, enfin c'est ce qu'on appelle le masque, hein, en Afrique en particulier, c'est celui qui porte un masque tout à fait personnel, et ce masque joue un rôle, eh bien, dans la découverte, justement, enfin, des phénomènes un peu curieux, enfin, et il va traduire auprès, enfin, de la population, il va traduire, eh bien, ce qu'il a reçu comme une sorte d'initiation en dansant et en jouant le masque. Alors ici, le masque, vous voyez, celui que vous avez à gauche, eh bien, il y a trois sortes de cornes, et de l'autre côté, quatre. Celui qui possède les quatre cornes, on peut assez bien l'identifier. Vous voyez, il y a ces quatre appendices, là, c'est les oreilles, et puis les deux cornes d'une gazelle. Voilà. Donc, il y a aussi un collier, ce que vous entrevoyez. Voilà. Ce personnage est donc lié à un masque qui représente la gazelle. Et le premier. La première représentation, eh bien, c'est un masque. Vous voyez qu'il y a trois appendices en haut, trois appendices en bas aussi. Le corps est symétrique, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, une sorte de croix au milieu. C'est un personnage qui est donc géométrique, symétrique, et il joue ce rôle parmi les masques. Un autre personnage, alors tout à fait important, c'est celui-là. C'est aussi une même plaquette. Hein. Donc, vous voyez, il a une tête. Les yeux sont des yeux malheureux. Il a une grande bouche. Il a aussi un corps dans lequel on voit, par rapport au précédent, on voit des entrailles, on voit des boyaux. Et puis, d'une main, il a une sorte de pic, et de l'autre main, un fouet. Eh bien, ce masque, c'est le masque de la mort, avec ce grand rictus, cette tête, et puis ce grand rictus. Et puis, il bat les vivants, hein, avec son fouet et avec sa pique. Voilà. Ce masque joue un rôle, bien sûr, très très important, enfin, dans ces danses et dans ces rites. Alors, les matériaux qui sont utilisés nous apprennent quelque chose de tout à fait intéressant. Ces matériaux sont des matériaux bruts. Alors, le rouge, c'est de l'ocre. Hein, vous avez le noir. Vous voyez qu'il y a des tracés noirs qui bordent le rouge. Le noir, c'est des cendres de bois, hein, qui sont pilées. Et puis le blanc. À votre avis, qu'est-ce que c'est que le blanc? Et vous remarquerez que ces matériaux sont des matériaux naturels qui sont accessibles par tout le monde. C'est-à-dire que les jeunes doivent se débrouiller pour trouver tous ces matériaux et pour faire ces peintures. Eh bien, le blanc, ce sont des fientes de chauve-souris. Et on est au bord de la falaise, hein, et ce sont des matériaux qui sont donc des matériaux accessibles par l'ensemble de ces jeunes. Et ces manips, hein, ces sortes de fabrications, sont donc des fabrications qui n'exigent aucune transformation savante. Il faut simplement retrouver les gisements, par exemple, de terre rouge, hein, de la meilleure qualité, et l'initiation et juger en fonction du résultat de ces plaquettes. Alors, la photo, vous la verrez peut-être un peu pâle, là. C'est la fameuse falaise de Bandiagara. Et vous voyez, sur le côté droit, vous avez à la base quelques pierres, vous voyez, en bas. Ce sont les sièges de ces jeunes qui viennent donc recevoir l'initiation. Et le mur que vous avez là au milieu, Hein, c'est une sorte de paroi qui font passer les jeunes à initier aux jeunes initiés. Alors, ces dessins que vous voyez sur cette paroi, elle est énorme. Hein. Vous voyez le personnage à gauche, là, hein, il est tout petit. Cette falaise est peinte avec énormément de dessins dans lesquels on retrouve des masques, vous voyez, en haut. On retrouve aussi des petits personnages qui sont entiers avec aussi leurs masques. Mais on voit aussi des sortes de grands rectangles. On trouve aussi d'autres motifs. En particulier, il y a ici, on le voit, un serpent. Le serpent est une représentation qui arrive un peu plus tard, mais qui a un rôle important parce que le serpent vient du sol, il vient de la terre, et il représente donc tous ces mystères du terroir. Et un autre, le serpent a été peint plus récemment, et un autre animal qui joue un rôle tout à fait important dans la mythologie d'Ogon, c'est le renard pâle, le renard blanc. Et ce renard, encore aujourd'hui, dans un petit village, pas loin de Bandiagara, eh bien, tous les jours, le matin, on vient regarder les empreintes sur le sable de ce renard pâle, et les quelques, ils sont trois ou quatre, qui sont les plus âgés du village, viennent interpréter pour la journée, viennent interpréter au fond ce que sont ces empreintes, car ces empreintes donnent bien sûr l'avenir historique, qu'elle soit chimique, qu'elle soit scientifique, eh bien que ces méthodes nous donnent des indications qui permettent de resituer ces sculptures ou ces peintures dans un contexte général et nous permettre, par rapport à Picasso et par rapport à Matisse au départ, nous permettre de visualiser ou de comprendre des formes d'esprit qui ne sont pas les nôtres. Quand on aborde ces sociétés, on a besoin d'une sorte de recul pour mieux comprendre ce que sont ces mentalités. Et vous voyez que dans ces cas-là, on peut aller très loin. Quand on a, j'ai fait allusion à l'histoire, qu'on peut arriver à reconstituer comme ça, la notion d'histoire est tout à fait importante. Alors, je vais prendre d'autres exemples chez Dogon encore. Ce sont des statuettes. Attendez, on va voir les statuettes en pierre. Voilà. Ce sont des statuettes, vous voyez les visages là. Hein, ce sont des statuettes en bois. Et vous voyez que l'épaisseur de ces produits qui sont versés, qui sont craquelés ici, l'épaisseur de ces produits qui sont versés sur ces statuettes. Ces statuettes, on les honore régulièrement lors des fêtes. On les honore aussi lorsqu'il y a des décès. On les sort et puis ce sont les petites divinités des Dogons. Et il est tout à fait intéressant de voir que ces statuettes sont complètement craquelées et qu'elles sont complètement imbibées de ces produits. Alors, il fallait savoir ce qu'étaient ces produits pour comprendre pourquoi on les versait, ces produits. Alors, on a pu les identifier, on a fait des petits prélèvements, on a pu les étudier. Il s'agit de farine. Il s'agit de farine de mil mélangée à de l'eau. Et là aussi, il y a le sacrifice du poulet qui est introduit dans le... Pourquoi ? Parce que c'est la vie qu'on veut donner à ces statuettes. Pour qu'elles soient efficaces, on les met en condition pour que ces statuettes entendent les prières que font les hommes et ensuite exaucent au fond ces prières. Alors, toutes ces statuettes aussi sont souvent très anciennes. Et quand on arrive à obtenir, enfin, ces, des petits prélèvements de ces produits, enfin, qui sont versés dessus. On peut les analyser, non seulement pour leur contenu chimique, mais on peut les analyser aussi d'un point de vue chronologique. Et le carbone 14 peut aussi aider, donc, à dater ces statuettes. Alors, on avait vu l'exemple avec la grande statuette Jelenke, hein, qui datait de 1000 ans. Eh bien, ces statuettes ne datent pas de 1000 ans, elles datent beaucoup moins, mais on peut avoir jusqu'à 2-3 siècles. Et là encore, non seulement on peut retrouver la vie au fond du village, avec ces, mais on peut aussi mieux comprendre ce que sont, enfin, eh bien, ces rituels. Car une fois que les statuettes sont utilisées ou vieillies, une fois que le bois commence à se craqueler, eh bien, il arrive un moment où l'on a envie, enfin, de refaire d'autres statuettes, hein, et souvent d'un style nouveau, d'un style plus moderne pour l'époque. Et même chose, aussitôt qu'on a ces nouvelles formes, eh bien, pour les rendre vraiment efficaces, il faut les nourrir avec ces produits, il faut les rendre vraiment complètement proches des divinités, parce que ce sont les divinités, enfin, qui donnent cette vie aux statuettes. Et ces statuettes, donc, eh bien, donnent ensuite satisfaction aux vivants. Dans cet ordre d'idées, mais dans une autre région, mais plus au sud du Mali, on a ces formes qui sont des formes, là vous voyez une sorte de zébu avec la tête, mais une tête ronde, vous voyez sur la radiographie à droite, une tête ronde et une bosse, hein, ce sont des zébus. Et puis vous voyez, donc c'est une radiographie, la radiographie vue de face, vue de profil, et en dessous la statue vue d'en dessous. C'est une statuette qui, vous voyez, enfin, est formée de couches. Vous voyez, enfin, surtout dans le profil. Vous voyez, enfin, d'abord un premier profil, hein, et puis ensuite vous voyez certaines couches, enfin, qui se succèdent. Là, chaque fois qu'on veut vivifier la sculpture des sacrifices, eh bien, on rajoute une couche. On agrandit, disons, enfin, le profil de cet animal. Ce qui fait qu'on a chaque fois une nouvelle statue. Alors, cette statue, elle est faite de glaise, hein, de terre noire, et puis des éléments organiques qui sont mélangés. Et du miel, probablement. Et cette forme, donc, de matière, hein, est typique de ce type de fétiche qu'on va questionner pour un certain nombre de choses, en particulier pour régler des problèmes de relations entre celui qui fait le sacrifice et puis d'autres. Ça peut être un chef, ça peut être un ennemi, ça peut être... Voilà. Donc tout problème social est traduit en action religieuse. Il faut que les esprits, il faut que le Dieu participe au fond à cette vie sociale. Et cette vie sociale peut être très tendue, et souvent dans ces statuettes, on va trouver des petits éléments, comme dans celui-ci. Il y a, au niveau de la patte, il y a d'abord un petit collier avec des cories. Donc vous savez l'importance des cories, hein, en Afrique, les cories, hein, c'est vraiment le bonheur. Mais il y a aussi à l'intérieur un petit anneau en or qui est en contraste complet avec le matériau qui est utilisé pour faire la sculpture, mais qui montre au fond l'intensité de la prière qui est faite par celui qui fait le sacrifice. d'autres exemples de ces sortes de petits fétiches qui sont fabriqués pour demander des choses, pour faire des à propos de sacrifices. Vous voyez le bâton du milieu là, vous avez un bout de bois qui se fichait en terre, hein, il est appointé, et puis vous avez deux petites cornes de chèvre, et puis une sorte de tête, et en haut un petit bracelet aussi avec des petites perles en verre. Voilà, encore une fois, eh bien, l'allusion à un animal, hein, ici qui a probablement été sacrifié, et puis eh bien, quelques objets précieux qui montrent combien celui qui a fait la présentation, celui qui a fait ce sacrifice, eh bien, attend de cette cérémonie. Là encore, on est dans une manière de traiter les relations sociales entre les hommes. Voilà, ce sont des radios. Ah, un exemple aussi. On est toujours en Afrique et toujours au sud, vers le Gabon. Et vous voyez que ces statuettes possèdent, souvent, vous en avez vu sans doute déjà, des miroirs. Et vous voyez le miroir ici. Donc, la tête de la statuette est augmentée d'une sorte de grand bonnet, voyez. Et ce bonnet, ben, c'est toujours cette même matière noire qu'on trouvait avant dans ces animaux qu'on appelait les bolis. Donc ici, la tête est augmentée de cette matière qui est la matière sacrificielle, hein, qui donne de la valeur à la statuette. Et puis, sur le côté, vous avez des bracelets, vous avez des perles, etc. Mais l'important, c'est le miroir. Le miroir est fait pour renvoyer le mauvais sort. Un miroir reflète une image. Eh bien, ici, le miroir doit renvoyer l'image de ce mauvais sort qui peut vous être envoyé par votre ennemi. Et ces miroirs, eh bien, ils sont bien sûr très précieux parce que dans une société où on se sent menacé de plusieurs côtés, hein, le miroir peut effectivement être efficace, mais il ne peut protéger que d'un côté. Alors, il y a d'autres statuettes, comme les statuettes de chiens, vous avez peut-être vu déjà, des statuettes avec un chien à deux têtes. Le chien est conçu comme l'animal qui veille toujours. La nuit, le chien sait toujours se réveiller quand il y a un danger. Vous avez vérifié la même chose ici. Je finis avec cet exemple. Donc, je parlais du chien. Et vous savez que le chien, donc, a une sensibilité, en particulier la nuit, et qu'aussitôt qu'il y a un mouvement ou quelque chose comme ça, le chien peut, surtout quand il est bien dressé avec son maître, il peut avertir. Et les Africains donc traduisent cela par leur sculpture, et pour bien indiquer que le chien sait voir dans tous les coins et ressent n'importe quel mauvais sort qui peut arriver de n'importe quel endroit, eh bien il le représente par un animal donc à deux têtes qui regarde dans les deux sens. Et derrière ce miroir, il y a à nouveau cette matière qu'on voit sur la tête, qu'on a vu sur les bolis précédemment, cette matière qui protège du mauvais sort. Et ce qui absorbe le mauvais sort... Voilà. Donc c'est comme... Donc je parlais de cette matière qui absorbait donc les mauvais aspects, hein, de ces mauvais sorts et qui les réduisait, disons, à zéro. Voilà la radiographie de ces petites statuettes. Et vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez justement ces petits produits qui atténuent donc le sort. Un autre aspect intéressant qui a été aussi dévoilé par les analyses qu'on a faites, ce sont des statuettes comme celle-là, et vous voyez que l'allure qu'elles ont, enfin la surface, semble être une surface huileuse. Hein, c'est comme s'il y avait voilà, une sorte de produit qui imbibait l'ensemble de la sculpture. Cette sculpture est une sculpture d'aïeul, c'est-à-dire d'une femme qui était décédée, mais qui a un renom dans la société, dans la famille, et que l'on veut honorer régulièrement. Et elle possède un petit, vous voyez, enfin, entre les mains, elle possède un petit récipient, un petit vase, et on a l'impression que tout ce côté gras ou fluide de la surface, eh bien, coule dans ce petit vase qui, effectivement, enfin, est souvent rempli enfin, d'une certaine de ce produit. Et ce produit, eh bien, c'est le produit qu'on utilise aussi pour s'enduire lors des cérémonies. C'est-à-dire pour avoir une peau, disons, luisante. Voilà, c'est un traitement hein, de vivant. Et alors, on se demandait, parce que ces statuettes peuvent avoir un siècle, parfois un peu plus, et on se dit, mais comment se fait-il que ce produit, eh bien, est toujours produise le même effet? Et comment se fait-il que ces statuettes, au fond, semblent être fabriquées, disons, enfin, un peu de temps avant, alors que le style enfin, donne des datations beaucoup plus anciennes? Et on a le problème était vraiment pas du tout élucidé. Beaucoup avaient mis plein d'hypothèses. Et alors, on s'est aperçu avec des rayons. Là c'était des ultraviolets. On s'est aperçu les infrarouges. On s'est aperçu que ces produits, au fond, n'étaient pas en réalité fluides. Que ces produits étaient une sorte de gomme. C'était un produit qui imite, au fond, les crèmes qu'on peut se mettre sur le corps, mais au lieu d'être les vraies crèmes, eh bien, c'était des sortes de gommes qui résistaient avec le temps et qui donnaient cette impression qu'aujourd'hui, eh bien, on a toujours cette statuette qui continuait à vivre, puisqu'on les a trouvées dans ces milieux funéraires. Alors voilà cette statuette avec les mêmes les éclairages, là, ultraviolet. Et vous voyez en particulier qu'il y a des zones, vous voyez au niveau des cuisses par exemple, ou même en dessous des bras, des zones qui ne sont pas du tout, qui ne fluorescent pas de la même manière. Et ce sont des zones qui ne sont pas du tout enduites de ces gommes. Donc le côté écoulement est en réalité une fausse interprétation, et pourtant ce produit veut signifier que la statue est toujours vivante. Je passe là. Et puis pour terminer, je voudrais vous présenter une peinture qui vient d'Amérique et qui a été faite par des Indiens. C'est une peinture qui date de 2-3 siècles, et qui, vous voyez, c'est une grande peau bison, et c'est un manteau de chef. Le chef s'entourait de cette peau, hein, et les décors, les peintures qui existent sur cette peau, eh bien, expriment, au fond, la royauté de ce chef. Alors, il y a, vous voyez au milieu, il y a à ce niveau-là une sorte de grand de bandeau, hein, avec des soleils et des lunes. C'est cette grande ligne qui sépare la partie basse et la partie haute. Ces lunes et ces soleils expriment bien sûr la rotation de la Terre, hein, et les passages solaires et passages lunaires. En dessous, on va le voir, il s'agit de la partie des vivants, de la manière dont les populations vivent au quotidien. Et au-dessus, on a des scènes de bataille, mais très cruelles, avec bien sûr des morts, etc. Et ces scènes de la partie supérieure évoquent donc des formes d'héroïsation, mais aussi de mort, d'abandon de la vie. Voilà des peintures, des petites représentations de cette même peau. Alors voilà ici le développé de la partie intermédiaire, hein, qui correspond à l'échine, disons, de la peau. Vous avez ici des scènes de guerre, hein. D'abord qu'elles étaient faites en un seul jet, hein, c'est-à-dire que l'histoire qu'on peut raconter maintenant, elle se tient parce qu'elle était faite comme ça d'un seul allant. Et ensuite, cette peau cérémonielle avait bien été portée par des chefs et qui vivaient donc il y a deux, trois siècles. Alors, pour conclure cet exposé, je voulais vous dire que c'est un aspect d'étudier ces sociétés qui est assez valorisant parce que le point de vue qu'on peut en tirer peut changer. Ces sociétés qu'on appelait donc sans histoire, c'est-à-dire sans dimension historique, hein, ces sociétés qu'on pouvait reléguer en disant ce sont des sociétés archaïques, de toute façon, on ne pourra jamais rien en tirer, ces sociétés ont autant d'importance, elles ont autant d'intérêt que toutes les histoires de toutes les sociétés dans le monde. Et ces études qui mêlent à la fois les sciences humaines et les sciences exactes, montrent qu'on peut faire un effort, non seulement pour raconter ces histoires qui sont souvent notre point de vue, mais ces études permettent de remettre en cause justement ces points de vue tout faits et de retrouver des moments ou des techniques ou bien des rituels qui sont très importants pour ces peuples-là. Et voilà, cette humanité vaut la peine de cette exploration tout à fait nécessaire dans la vie. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre.